Hey, salut les amis! Bienvenue sur Paris au clock, le podcast qui vous parle de culture française en français facile. Moi, c'est Aurélie, je suis professeure de français à Paris et vous pouvez me retrouver sur mon site parisauclock.com ou sur mon compte Instagram. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Je reviens aujourd'hui avec un nouvel épisode sur le thème du mystère. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre. C'est la période de l'année où on aime bien se raconter des histoires de fantômes devant un bon feu de cheminée avec une tasse de chocolat chaud. Eh bien justement, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de fantômes. Il y a quelque temps, j'ai écouté un podcast très intéressant qui racontait l'histoire d'un fantôme très célèbre. Le fantôme de l'opéra. Vous avez peut-être vu la célèbre comédie musicale ou un des nombreux films qui racontent l'histoire du fantôme de l'opéra. Mais connaissez-vous l'origine de cette histoire? Saviez-vous que tout a commencé par une série d'événements bien réels? En effet, à la fin du 19e siècle, des accidents inexpliqués et des apparitions mystérieuses se produisent dans les coulisses de l'Opéra de Paris. La rumeur va vite se propager. L'opéra serait hanté par un fantôme maléfique. Les Parisiens de cette époque finissent par croire qu'il y a vraiment un fantôme à l'Opéra de Paris. Quelques années après ces événements, un journaliste et écrivain qui s'appelle Gaston Leroux reprend cette mystérieuse histoire de fantôme et écrit un roman qui mélange fiction et réalité. Ce livre va connaître un très grand succès et il va vraiment nourrir notre inconscient collectif. Il va nous faire croire que le fantôme existe vraiment. Par la suite, il y aura beaucoup d'adaptations de cette histoire au cinéma et au théâtre. Et aujourd'hui, de nombreuses personnes sont persuadées que le fantôme existe et qu'il se promène la nuit dans les couloirs de l'Opéra de Paris. Nous allons donc voir ensemble aujourd'hui comment a commencé la légende du fantôme de l'Opéra. Je vais reprendre les informations du podcast Affaires Sensibles, que j'ai beaucoup aimé. Ce podcast est très populaire en France, mais il est un peu difficile à comprendre quand on apprend le français. Alors, je vais vous raconter cette histoire passionnante en français facile. C'est parti! L'Opéra National de Paris est une très vieille institution qui existe depuis 350 ans. Tout au long de sa longue histoire, l'institution change plusieurs fois de nom et occupe différentes salles à Paris. Au XIXe siècle, au moment où naît la légende du fantôme de l'opéra, l'Opéra de Paris occupe principalement deux salles. En 1821, l'Opéra de Paris s'installe dans une salle située rue Lepelletier, en plein cœur de Paris. C'est le début d'une période très riche artistiquement. L'opéra devient le centre de la vie musicale européenne, mais aussi de la vie mondaine. C'est là que les grands de ce monde viennent se rencontrer. Mais le 28 octobre 1873, la salle Le Pelletier est détruite par un immense incendie. Un incendie, c'est un grand feu. A fire en anglais. Tout est perdu. Décor, costume, partition. Un an après cet incendie, l'Opéra de Paris s'installe dans un nouveau bâtiment. Un bâtiment majestueux. Le Palais Garnier. Je vais maintenant vous parler un peu plus en détail de ce bâtiment. Le Palais Garnier est situé en plein cœur de Paris, dans le quartier des banques, des gares et des affaires. Il est inauguré le 5 janvier 1875. L'architecte Charles Garnier a imaginé ce bâtiment comme un temple de l'art et du plaisir. Il voulait que l'architecture du bâtiment donne une impression d'abondance. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi son pari. Le Palais Garnier est un véritable chef-d'œuvre d'architecture. La façade extérieure est composée d'imposantes colonnes de marbre, de statues dorées et d'une coupole spectaculaire. À l'intérieur, c'est encore plus beau. Charles Garnier a tout fait pour que le public soit mis en valeur. Pour accéder à la salle de spectacle, les spectateurs doivent monter un magnifique escalier. Cet escalier majestueux est en marbre blanc et rouge. Il est décoré de moulures, de dorures et de colonnades. Il est éclairé par un grand nombre de lumières et il est entouré de balcons sur 4 étages. Cet escalier est l'endroit idéal pour se montrer avant le spectacle ou pendant l'entracte. J'imagine que les riches spectateurs de l'époque qui montaient cet escalier devaient se sentir comme les stars de cinéma d'aujourd'hui quand elles marchent sur le tapis rouge du Palais des Festivals à Cannes. Les spectateurs arrivent ensuite dans une immense salle de spectacle. À l'époque, c'est la plus grande salle de spectacle du monde. Des dizaines de balcons et de loges font face à la scène sur 5 étages. Le doré et le rouge sont omniprésents dans la salle. Eh bien, c'est justement dans ces 2 magnifiques salles de spectacle, la salle de la rue Le Pelletier et le Palais Garnier, que des événements dramatiques et inexpliqués vont avoir lieu au XIXe siècle. En effet, des événements mystérieux vont se produire à l'Opéra de Paris. Des événements si mystérieux qu'ils vont conduire les Parisiens de l'époque à croire qu'un fantôme se promène dans les couloirs de l'Opéra. Le premier événement inexpliqué se produit dans la première salle dont je vous ai parlé aujourd'hui, la salle de la rue Le Pelletier. La victime est un machiniste. Un machiniste, c'est une personne qui travaille à l'opéra et qui met en place les décors et le matériel. Un soir, dans les sous-sols de la salle Le Pelletier, les machinistes découvrent le corps d'un de leurs collègues mort. Tout laisse à penser que le machiniste s'est pendu. Se pendre, c'est to hang oneself. Mais ce qui est très étrange, c'est que la police ne retrouve pas de corde près du cadavre. La corde, c'est rope. La mort de ce machiniste est très étrange et mystérieuse, et elle donne lieu à des spéculations en tout genre. Quelques années plus tard, un autre événement dramatique se produit à l'Opéra de Paris, mais cette fois au Palais Garnier. Le mercredi 20 mai 1896, 2000 spectateurs assistent à un opéra. À la fin du premier acte, les spectateurs entendent un grand bruit sourd et sentent que le sol commence à trembler. Un contrepoids du lustre, de plus de 600 kilos, vient de tomber sur le public. Le lustre, c'est chandelier. Et c'est un élément de ce lustre, un contrepoids de 600 kilos, qui vient de tomber sur le public. C'est dramatique et très étrange. Une spectatrice meurt sur le coup. La police va conclure à un accident. En parallèle de ces incidents mystérieux, le personnel de l'opéra et les danseurs affirment être les témoins d'étranges apparitions. Ils entendent des choses bizarres. Une cantatrice raconte à la police qu'elle entend une voix quand elle chante le soir à l'opéra. Une cantatrice, c'est une chanteuse d'opéra. Cette cantatrice est une jeune femme d'une trentaine d'années sans histoire. Elle dit qu'une voix l'appelle et qu'elle se sent habitée par cette voix. Pour de nombreuses personnes, le témoignage de cette cantatrice est la preuve de l'existence du fantôme. Une vieille histoire remonte alors dans la presse. L'histoire d'un couple qui se trouvait à l'opéra de la rue Le Pelletier en 1873, le jour tragique où la salle a été détruite par un violent incendie. D'après la légende, la femme serait morte dans cet incendie et son mari aurait été terriblement blessé au visage par les flammes et il aurait disparu après l'accident. Toujours d'après la légende, l'homme se serait alors caché dans les sous-sols du Palais Garnier, qui était en pleine construction à cette époque. Depuis, il hanterait les couloirs de l'opéra et il attaquerait toutes les personnes qui oseraient le chercher. Pour bien comprendre le contexte de cette histoire, il faut dire qu'à l'époque, au XIXe siècle, l'opéra est un lieu très fermé. Seuls les plus riches peuvent se payer une place d'opéra. L'opéra apparaît donc comme un lieu mystérieux dans lequel il se passe des choses étranges pour la plupart des Parisiens. Autre élément important, à cette époque, la presse est très puissante. On l'appelle le quatrième pouvoir. Il y a quatre grands journaux et chaque journal veut dépasser ses concurrents. Chaque journal veut écrire des articles plus sensationnels, plus extraordinaires que ses concurrents. Cette histoire mystérieuse de fantômes est donc la bienvenue dans la presse de l'époque. Voilà pour ce qui est des faits. Un jeune journaliste qui s'appelle Gaston Leroux va prendre cette histoire très au sérieux. Gaston Leroux est un journaliste spécialisé dans les enquêtes criminelles. Il devient ensuite écrivain et il écrit de nombreux romans policiers. Il est très inspiré par les livres de Conan Doyle dans lesquels le célèbre Sherlock Holmes doit faire preuve de courage et de pragmatisme pour résoudre des affaires mystérieuses. Gaston Leroux s'intéresse beaucoup aux événements mystérieux qui se produisent à l'Opéra de Paris à la fin du XIXe siècle. En 1910, il publie un roman qui se déroule à l'Opéra de Paris et qui mélange réalité historique et fiction. Ce roman, c'est bien sûr Le fantôme de l'Opéra. Je vais maintenant vous raconter cette histoire. L'histoire, écrite par Gaston Leroux, se déroule à la fin du XIXe siècle, au Palais Garnier, à Paris. Le personnel de l'opéra est persuadé qu'un fantôme maléfique habite dans le sous-sol de l'opéra. À chaque fois que quelqu'un ose désobéir au fantôme, un événement tragique se produit. Par ailleurs, une jeune cantatrice, qui s'appelle Christine Daae, entend une voix la nuit quand elle chante à l'opéra. Cette voix, c'est la voix du fantôme. Un soir, la jeune femme disparaît en plein spectacle. C'est le fantôme qui l'a enlevée. Le fantôme emmène Christine dans les sous-sols de l'opéra où il vit. Et le courageux Raoul de Chagny va tout faire pour retrouver la jeune femme. Dans son livre, Gaston Leroux s'inspire de personnages et de faits qui ont vraiment existé. Le personnage de Christine Daae est inspiré de la cantatrice Christine Nilsson qui a vraiment existé. Et le personnage du fantôme est inspiré du jeune homme qui avait été blessé pendant l'incendie de l'opéra de la rue Lepelletier en 1873. De plus, les accidents décrits dans l'histoire ressemblent beaucoup aux accidents qui ont eu lieu dans la réalité, mais leur cause relève de la pure fiction. Gaston Leroux reprend des événements qui se sont vraiment produits, mais il utilise son imagination pour connecter ces éléments entre eux. Par exemple, au début de cet épisode, je vous ai parlé de la mort mystérieuse d'un machiniste dans les sous-sols de l'opéra de la rue Lepelletier. L'homme semblait s'être pendu, mais la police n'avait jamais retrouvé la corde. Et la police avait conclu à un accident. Dans son livre, Gaston Leroux reprend cette histoire, mais dans le roman, ce n'est pas un accident. Le machiniste avait découvert, sans le vouloir, l'endroit où le fantôme se cache dans les sous-sols de l'opéra. Et pour le punir, le fantôme l'a tué. Dans le livre de Gaston Leroux, cet incident se produit au Palais Garnier. Dans la réalité, il s'est produit à l'opéra de la rue Lepelletier. Voici un autre exemple. Je vous ai également expliqué l'histoire d'un contrepoids du lustre du Palais Garnier qui était tombé sur le public en plein spectacle. Et la police avait également conclu à un accident. Dans le livre de Gaston Leroux, ce n'est pas un accident. C'est encore le fantôme qui est responsable. Dans le livre, tout le monde à l'opéra sait très bien que la loge numéro 5 est la loge du fantôme. Personne n'a le droit d'occuper cette loge à part le fantôme. Et quand les nouveaux directeurs de l'opéra décident d'occuper la loge numéro 5, pour regarder un spectacle, le fantôme se met très en colère et provoque un accident dramatique. Il fait tomber le grand lustre dans le public. Le roman de Gaston Leroux va être un véritable succès littéraire. Le Fantôme de l'Opéra est tout d'abord publié sous forme de feuilleton à partir de septembre 1909 dans le journal Le Gaulois. Il est ensuite publié sous forme de livre en 1910. Ce livre va vraiment inscrire dans les esprits l'idée selon laquelle une créature cachée quelque part dans l'opéra serait à l'origine des accidents et des apparitions rapportées à l'Opéra de Paris. Quelques années plus tard, à la fin de la Première Guerre mondiale, le livre va quitter Paris pour les États-Unis. Et c'est là que l'histoire va prendre toute son ampleur. En 1925, l'acteur vedette Ian Chaney joue le rôle du fantôme dans l'une des toutes premières superproductions d'Hollywood, avec l'une des toutes premières scènes en couleur de l'histoire du cinéma. Le succès est planétaire. Le Fantôme de l'Opéra sera ensuite adapté et réadapté dans tous les genres et tous les formats. On compte à ce jour 21 pièces de théâtre, 7 films, 2 fictions télé et 16 pièces musicales. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La légende du Fantôme de l'Opéra revient à la une de l'actualité. Lors des représentations théâtrales du Fantôme de l'Opéra, plusieurs événements dramatiques vont se produire. À Broadway, lors d'une représentation de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, l'un des candélabres se brise en plein spectacle. À Paris, pendant les répétitions qui précèdent la première représentation de la comédie musicale consacrée au Fantôme de l'Opéra, un incendie ravage la scène. Et vous, croyez-vous au Fantôme de l'Opéra? Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription sur mon site parisoclock.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Avec chaque post, je vous donne une nouvelle pièce de puzzle pour vous aider à mieux comprendre la langue et la culture française. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur mon site ou sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires et comme je le dis souvent, ce sont vraiment vos commentaires qui me motivent et qui m'encouragent à continuer d'enregistrer de nouveaux épisodes. Allez, à bientôt les amis !